L'Orient décrypté avec Jean-Pierre Perrin.
L'Orient décrypté sur Radio Orient, merci de nous suivre avec vous, Nadia Bencher. Un nouvel épisode consacré au Moyen-Orient où la guerre dure et plus elle dure, plus une question s'impose. Pourquoi l'Iran ne semble-t-il pas vraiment pressé d'y mettre fin? Est-ce parce qu'à Téhéran, on considère avoir tenu là où Washington et Israël espéraient faire plier le régime? Est-ce parce que l'Iran pense désormais pouvoir transformer cette guerre en levier pour redessiner sa place dans la région? Dans le même temps, côté américain, la ligne de Donald Trump paraît de plus en plus difficile à lire. Il parle d'accord, mais les frappes continuent. Il promet une issue, mais les échéances politiques s'accumulent. Et pendant que l'Iran et les États-Unis négocient sans véritable percée, le Liban reste le front le plus exposé. Israël intensifie ses attaques, avance sur le terrain et la question du désarmement du Hezbollah revient avec une brutalité nouvelle. Autrement dit, pour comprendre où va cette guerre, il faut regarder à la fois Téhéran, Washington et Beyrouth. Pour tenter de démêler tout ça, je reçois comme chaque semaine Jean-Pierre Perrin, grand reporter et écrivain spécialiste de l'Iran, du Proche et du Moyen-Orient. Merci d'être avec nous, Jean-Pierre Perrin.
Bonjour Nadia, bonjour à toutes, bonjour à tous.
On va partir de cette intuition, Jean-Pierre Perrin, si l'Iran ne se précipite pas vers la sortie, ce n'est peut-être pas seulement par rigidité idéologique. Pourquoi l'Iran ne semble-t-il pas pressé de terminer cette guerre ?
Parce que le régime a pris en compte un nombre d'éléments qui l'incitent à croire que le pays est victorieux, que le régime est pour le moment victorieux de la confrontation avec les États-Unis. Ce n'était pas le cas lors de la guerre des 12 jours, au mois de juin de l'année dernière, où là, le régime avait accusé le coup. Donc, il en a profité pour se réorganiser, rebataille donc le 28 février avec la frappe surprise sur le guide de la République islamique ou le guide de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a été tué, ainsi que nombre d'officiers supérieurs. Et depuis, nous avons une nouvelle caste d'officiers supérieurs qui n'ont pas du tout la même mentalité que leurs aînés, qui sont d'un autre milieu, peut-on dire, et bien évidemment des gardiens de la Révolution. Ce sont tous des officiers du Sepah-e Pasdaran, le nom qu'on l'on donne en persan à l'armée des gardiens de la Révolution. Mais ils sont plus jeunes, ils n'ont pas été confrontés à la guerre Irak-Iran, et donc ils ont une autre façon de voir les choses. Ils considèrent qu'il faut défendre l'Iran et non plus la Révolution islamique. Alors ce n'est pas simplement sémantique, ce n'est pas simplement une question de mots. L'Iran, c'est-à-dire la nation iranienne, alors que le précédent régime ne défendait que la révolution islamique ou la république islamique. Donc, ils sont nationalistes. Alors, il y a un vernis religieux, évidemment, puisque nous avons toujours un guide suprême, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, le fils de l'ancien guide suprême, toujours invisible, toujours qui ne s'exprime que par communiqué, et dont on peut penser qu'il n'est toujours pas « présentable », entre guillemets. Mais cette nouvelle génération de gardiens de la révolution est à la fois plus pragmatique, c'est-à-dire sur le plan de la répression, cela ne change pas. C'est même peut-être encore pire qu'avant. Mais ils prennent en compte un certain nombre de données technologiques, bureaucratiques, que leurs prédécesseurs ne prenaient pas en compte. Et surtout, ils ne se sentent pas fragiles. Le précédent régime, malgré ses grands cris de victoire à tout moment, à tout instant, pensait quand même qu'il était fragile. Eux ne se pensent pas comme fragiles. Ils pensent que si l'un d'entre eux est tué, ben un autre prendra sa place. Et donc, ça induit une nouvelle forme de pensée, donc d'action. Et l'Iran, maintenant, à leurs yeux, est un État qu'il faut défendre et même qu'il faut étendre. C'est-à-dire, suivez le regard en direction des pays du Golfe, des monarchies arabes du Golfe, arabo-persiques, qu'ils entendent mettre, non pas, on va pas les conquérir, mais les dominer.
Peut-on dire que le fait de ne pas avoir capitulé change toute la lecture de la guerre ?
Tout à fait, exactement. C'est-à-dire, ils n'ont pas capitulé, ils n'ont pas, même pas fait aucune concession, et non seulement ils n'ont pas fait de concession, mais qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Ils ont gagné le détroit d'Ormuz. Alors, contrôler, comme ils le font actuellement, le détroit d'Ormuz, c'était une vieille idée. Depuis très longtemps, le régime l'avait en tête. En cas d'attaque, nous contrôlerons le détroit d'Ormuz. Mais ils ne l'appliquaient pas. Ils pensaient peut-être que ce n'était pas réaliste. Là, ils ont mis leur menace à exécution. Ils ont cette nouvelle arme. Et du coup, c'est l'équivalent d'une bombe atomique. D'ailleurs, un député du Parlement iranien a mentionné le mot « bombe atomique » pour le détroit d'Ormuz. Donc, grâce à ce détroit, eh bien, ils contrôlent la situation. Et l'erreur des Américains et l'erreur des Israéliens, c'était de croire qu'ils pouvaient empêcher ce contrôle par l'Iran du détroit. Mais non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas tout simplement parce que leur marine, fort puissante, est néanmoins vulnérable et que cela risquerait d'entraîner mort d'hommes, mort de soldats américains, ce que le président Donald Trump ne peut pas se permettre.
Alors, si l'Iran pense avoir tenu, cela ne veut pas dire qu'il veut simplement revenir au statu quo. L'objectif iranien est-il en train de devenir autre chose qu'une simple sortie de guerre?
Oui, parce qu'ils ont pris conscience, d'une part, qu'ils ont tenu tête aux Américains. C'est déjà une première victoire, parce que finalement, dans le monde entier, tout le monde pensait que le régime allait s'écrouler. Eux n'ont jamais pensé. Ils ont tenu tête, donc ils sont victorieux à leurs yeux, et même ils sont victorieux pour une large partie de l'hémisphère sud, ce qu'on appelle le sud global, pense que, globalement, que l'Iran est victorieux, et même nous posons la question, est-ce que l'Iran ne serait pas sorti victorieux de ce conflit, qui d'ailleurs n'est pas terminé, dans sa première phase. La deuxième chose dont qu'ils ont réalisé, c'est qu'ils pouvaient pénaliser l'économie internationale en contrôlant simplement ce détroit. Donc, ils sont capables d'exercer un chantage phénoménal et de pousser tous les pays à s'entendre avec eux de façon bilatérale pour pouvoir avoir accès à leur pétrole, pour pouvoir avoir accès au détroit et avoir accès au Golfe. Évidemment, les Américains les en empêchent. Mais ils savent bien, en leur fort intérieur, que les Américains, tôt ou tard, devront un jour partir. Et puis, ils ont quand même des petits succès ici et là qu'on ne voit pas. Par exemple, est-ce que vous avez noté que la fameuse base américaine en Irak, qui était là depuis 2003, depuis donc l'invasion américaine de l'Irak, elle a toujours été là contre vents et marées, discrètement, les Américains de la base ont plié bagage. Il n'y a plus de base américaine qui était centrale dans la stratégie américaine. Deuxième chose, on s'est rendu compte que, même si Donald Trump les a beaucoup minimisés, les frappes sur les bases américaines du Golfe ont été destructrices, pas en termes humains, mais il y a eu des dégâts considérables qui ont été infligés à ces bases. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de petites victoires, et puis vous regardez comme bien les monarchies du Golfe sont apeurées par la menace iranienne. Et en même temps, ils voient aussi que les liens très forts qu'il y avait entre Washington et
les États-Unis,
Doha, Dubaï, Abu Dhabi, Kuwait City, Manama au Bahreïn, ces liens sont fragilisés, que la puissance américaine a pris un coup que personne d'autre ne lui avait donné avant, peut-être les talibans en 2001, mais là, ils ont donné un nouveau coup aux Américains, et tout ça conforte le régime dans le fait qu'il a remporté une victoire et qu'il est victorieux pour toujours.
Cette nouvelle stratégie que semble adopter le régime iranien peut-elle imposer de nouvelles règles de jeu dans la région?
Les nouvelles règles du jeu existent déjà, puisqu'on essaye maintenant de composer avec Téhéran. Il y a eu quand même des choses étonnantes. Il y avait un ministre d'un pays scandinave a fait une discrète visite à Téhéran, alors que normalement, les Américains s'y opposent formellement, qu'il y a un embargo qui concerne à la fois un peu tout le monde. Et donc, il y a des petits signes comme ça. Et puis, ce qui conforte Téhéran, et ça, c'est une des nouvelles règles du jeu, c'est la relation entre la Chine et l'Iran. Elle s'est considérablement renforcée. On a des déclarations chinoises qui laissent entendre que finalement, la nouvelle donne à Téhéran, c'est pas si mal que ça. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, l'a dit carrément qu'il y avait maintenant une relation bilatérale qui n'est plus aussi dysfonctionnelle qu'auparavant, c'est-à-dire qu'elle est plutôt équilibrée, comme totalement encore déséquilibrée au profit de Pékin, mais elle l'est beaucoup moins. Donc on a un État iranien renforcé, une république islamique qui, elle, n'est plus ce qu'elle était. Mais peu importe, puisque finalement, nous sommes toujours dans une dictature. Nous sommes passés d'une dictature religieuse à une dictature militaro-religieuse, mais plus militaire que religieuse.
Alors, c'est là qu'apparaît un autre versant de cet épisode, la stratégie américaine qui semble de plus en plus heurtée du côté américain. Donald Trump n'est-il pas en train de se retrouver dans une position plus difficile qu'il ne l'avait imaginé?
Ben, on sent un malaise quand même chez Donald Trump. Des déclarations un peu à l'emporte-pièce, il en a toujours faites. Mais là, tout est décousu, il dit le contraire dans la même phrase. Donc on a l'impression d'un président américain qui n'est plus au contrôle des événements, mais qui subit ces événements. Donc il peut bien fanfaronner, il peut bien menacer, et même frappé encore, puisqu'il y a eu des frappes quasiment tous les jours, malgré le cessez-le-feu. Mais en même temps, on sent un président américain plutôt désemparé, attaqué évidemment sur le plan intérieur, avec des alliés qui évidemment ne le critiquent pas directement, mais il sait bien qu'il n'en pense pas moins. Et si l'Europe manque singulièrement de courage, bon, il en profite, mais le fait est qu'il est quand même sur la défensive, alors qu'il croyait que cette affaire iranienne serait réglée en quelques jours. On voit donc une stratégie totale qui a totalement échoué, tout simplement parce qu'elle reposait sur la destruction du régime, des têtes pensantes du régime, des têtes agissantes du régime, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ceux qui ont été éliminés ont été remplacés et ils ne sont pas moins incompétents que ceux qu'ils ont remplacé.
Finalement, Donald Trump est prisonnier de sa stratégie et de ses propres contradictions.
Oui, il est prisonnier de son absence de stratégie. S'il avait réfléchi, s'il avait eu une véritable stratégie opérationnelle et s'il avait été mis en pratique avec la première armée du monde, la première marine du monde, la première puissance économique du monde avec la Chine. Mais tout ceci est incarné par le président américain et la montagne a accouché d'une souris. Voilà, tout ça parce qu'on a un président qui n'est pas compétent dans les affaires militaires, mais qui croit qu'il l'est. Donc tout le problème est là, on a de l'incompétence, on a une certaine insouciance, on a de l'arrogance, on a des manques de cohérence et manques de logique à tous les niveaux, et tout ça, ça ne fait pas un bon chef militaire, d'où ce qui semble s'annoncer une catastrophe pour les États-Unis, dont la relation avec les autres pays du monde est sérieusement endommagée.
Alors j'aimerais, Jean-Pierre Perrin, qu'on revienne sur ces fameuses négociations entre Américains et Iraniens. Parce que chacun sert un récit différent. Comment lire ce décalage, puisque côté Trump, les négociations iraient très bien, côté iranien, il n'y aurait aucun progrès tangible. Qui joue quoi ?
Alors, qui joue quoi? Simplement, déjà, ils sont d'accord sur un point. On va prendre des points d'accord. Ils sont d'accord pour repousser la négociation des problèmes les plus sérieux, les plus complexes, c'est-à-dire la question du nucléaire, la question des 440 kilos d'uranium enrichi à 60% qui ont disparu, entre guillemets, à plus tard. Donc les problèmes sérieux, les problèmes complexes, les problèmes épineux, disons, on les repousse à plus tard. Donc, ils devraient être d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire la rouverture des détroits d'Ormuz, le dégel des avoirs iraniens, où là, il y a eu quelques avancées américaines. On ne sait pas jusqu'à quel point exactement, parce que les élucubrations du président Trump font qu'on ne sait pas trop quoi penser. Ce qui est vrai un jour est faux que le lendemain, voire dans l'heure qui suit. Donc, tout ceci aussi, cette manque de cohérence américaine, ces zigzags permanents, finalement, lui rendent un très mauvais service. Alors évidemment, peut-être que les Iraniens sont aussi désemparés, mais quand même, son propre camp l'est aussi. Donc, sur quoi ils sont d'accord ? Donc, sur un certain dégel de ces avoirs bloqués depuis 1979. C'est pour ça qu'il y a eu cette réunion à Doha, qui détient un certain nombre d'avoirs bloqués iraniens. Et donc, ils sont à peu près aussi d'accord sur un éventuel assouplissement des sanctions. Hein. Avoir et sanctions, ce n'est pas la même chose. Donc, là aussi. Mais là, on se rend compte que les Iraniens n'y croient pas. Ils ne croient pas que les sanctions puissent être débloquées, ou si elles le sont, ils pensent qu'elles seront tôt ou tard à nouveau imposées, tout simplement parce que le régime n'a aucune envie de changer. Sur le plan intérieur, toujours répressif au maximum, sur le plan extérieur, eh bien, il va continuer une politique expansionniste, peut-être d'une autre manière, simplement.
Alors, pour ne pas poser la question de qui sortira réellement renforcé de cette guerre si un accord est signé, il y a un intervenant principal qui est Israël et envers qui Donald Trump a eu des mots très durs, notamment envers Benjamin Netanyahou.
Oui, très dur. Il a traité de fou quand même, si on en croit le média américain Axios. Il a eu des mots à la limite de l'insulte ou de l'injure. Donc, les relations entre les deux sont loin d'être apaisées. Ce qui bloque, évidemment, c'est la question libanaise, qui pèse justement sur les négociations, puisque, alors, ce sont deux dossiers bien différents, mais il y a des passerelles quand même entre eux. Deux dossiers bien différents, mais qui sont liés, puisque l'Iran ne veut pas abandonner son allié, le Hezbollah, et veut que le Liban soit inclus dans les négociations américano-iranienne. Donc, tout cela complique parce qu'en même temps, Netanyahou veut continuer son invasion du Liban. On va prendre le mot invasion qui est quand même plus conforme à la réalité qu'opération militaire. Donc, il veut continuer son invasion du Liban. Il les frappe tous les jours. Hein, et frappe qui tue quantité de civils. Il ne vise pas seulement les gens du Hezbollah. Donc, ce n'est pas seulement une guerre contre le Hezbollah, c'est une guerre contre l'État libanais, aussi menu, aussi faible, fragile qu'il soit, dont cette guerre entre le Liban et Israël pèse sur les négociations. Alors, on a un nouvel accord qui est surgi comme ça, un de plus. Est-ce qu'il va être respecté ? On ne sait pas. Il paraît difficile qu'il soit respecté parce qu'encore une fois, le Hezbollah n'y est pas associé et on a l'impression que ceux qui l'ont négocié, sont sous la pression du côté israélien. Pression également sur Netanyahou de l'extrême droite, de ces deux ministres ultranationalistes, extrémistes, on peut même dire fascistes, qui pèsent sur lui et qui l'empêchent de faire la moindre concession qui voudrait que l'invasion israélienne sur le Liban continue. Donc Netanyahou lui-même est sous pression. Le président Aoun du Liban, lui aussi, est sous pression des Américains qui voudraient à tout prix arriver à un accord. Et puis, enfin, nous avons le Hezbollah qui lui-même peut être sous pression des Iraniens. Donc, vous voyez, à partir du moment où chacun des négociateurs, et encore une fois, le Hezbollah ne fait pas partie de l'équipe de négociation, mais encore chacune des parties est sous pression, c'est difficile de croire qu'un tel accord va avoir des chances, non pas d'aboutir, mais d'être respecté. Et là, tout indique quand même que ce nouvel accord va être extrêmement fragile. On peut quand même se féliciter qu'il ait lieu, parce que on ne sait jamais. Voilà. Peut-être que ça fera une accalmie au niveau des combats, mais déjà, on voit que cet accord est déjà menacé par Israël, qui a dit qu'il continuerait quand même, malgré l'accord, ses opérations contre le Hezbollah.
Alors, jusqu'où peut ou veut aller Israël et Benjamin Netanyahou dans cette guerre ? Continuer à grignoter du terrain ? Continuer à rentrer à l'intérieur des terres libanaises ?
Oui, il veut aussi satisfaire une opinion publique pour laquelle la guerre au Liban, eh bien, il la voit d'un bon œil. C'est peut-être un peu paradoxal, disons que les roquettes tirées par le Hezbollah, même si elles ne font que très peu de victimes du côté israélien, mais elles entretiennent un climat de peur, et ce climat de peur fait que les Israéliens sont favorables à ce que leur armée poursuive leur conquête de territoire libanais pour éradiquer, entre guillemets, le Hezbollah. Et là, on voit bien dans ce que demandent les Israéliens, ce qui n'est pas raisonnable, c'est-à-dire ils veulent que tous les gens du Hezbollah s'en aillent de ces territoires qui sont sous leur menace. Mais comment faire? Comment savoir si quelqu'un est du Hezbollah ou pas du Hezbollah? Est-ce que sa famille est inclue? Est-ce que c'est seulement lui qui s'en va dans des villages qui sont complètes, où le Hezbollah est finalement maille le territoire, maille les villages? Il est partout. Je voyais les images d'un enterrement d'une famille de 6 personnes qui avaient été tuées par une frappe israélienne. On voyait 2 portraits du Hezbollah à l'entrée de... 2 affiches du Hezbollah, plutôt, à l'entrée de la mosquée. Ce qui montre bien que le Hezbollah, il est chez lui, en pays, ami. Donc, il fait partie du paysage, si on peut dire. Donc, ça va bien être difficile de pouvoir sortir de faire sortir le Hezbollah des zones où il est installé depuis des années.
Alors, cette question du désarmement du Hezbollah ne relève pas seulement de la sécurité, elle touche au cœur même de l'équilibre libanais. Nawaf Salam a déjà averti qu'il ne laisserait personne entraîner le Liban dans des aventures menaçant sa sécurité et son unité, tout en disant ne pas chercher la confrontation avec le parti chiite, mais refuser toute intimidation. Le bras de fer autour du Hezbollah fait-il courir au Liban un risque réel de fracture intérieure?
Alors, de fracture intérieure, sans doute. On peut déjà dire... Premièrement, que le Liban est déjà fragile, extrêmement fragile, et il ne suffit de pas grand-chose pour le déstabiliser. On ne peut pas sans doute revenir à la guerre civile simplement parce qu'il n'y a que le Hezbollah qui est armé. Les autres partis, c'est-à-dire les druzes, les chrétiens, les sunnites, ne sont pas armés. Donc, ils ne sont pas en capacité de mener une guerre civile contre le Hezbollah. Mais le Hezbollah peut menacer l'État, il le fait régulièrement. Donc, on est dans une situation périlleuse pour le gouvernement libanais. En plus, qu'est-ce que demande Israël aussi? Il demande le désarmement, non pas seulement du Hezbollah, ce qui est assez légitime, mais le désarmement de l'armée libanaise. Une armée libanaise sans armes n'est plus une armée.
À quoi servirait-elle?
À quoi servirait-elle face à toutes les menaces auxquelles elle est confrontée? Pas seulement la menace du Hezbollah, mais il y a la menace aussi des extrémistes islamistes sunnites qui est toujours là, en particulier dans certaines zones du nord du pays.
Pour conclure, Jean-Pierre Perrin, que semble-t-il se dessiner dans les prochains jours au regard de ce qui apparaît comme une nouvelle reconfiguration du conflit au Moyen-Orient?
La crainte, c'est que le conflit s'éternise. Voilà. Et là, ce n'est pas bon pour l'économie mondiale. On voit que les cours du pétrole ont recommencé à grimper, que les bourses ont recommencé à chuter. Donc, nous sommes dans une situation où on voit bien que l'économie mondiale est prisonnière toujours de ce détroit d'Ormuz, et ce détroit d'Ormuz qui n'existait pas au début de la guerre, le problème du détroit, et maintenant il s'est imposé comme le problème numéro un avant même la guerre. On a maintenant quelque chose qui est dissocié, la question du détroit d'Ormuz, de la question iranienne, même si évidemment les deux sont très liés. Mais on traite le détroit d'Ormuz comme si c'était un cas désormais à part. Or, on ne voit pas comment les Iraniens pourraient lâcher du lest actuellement, puisque d'une part, ils sont dans ce que les Grecs appellent l'hubris, c'est-à-dire le sentiment, un sentiment conquérant d'égaler les dieux, en quelque sorte. Donc, on ne voit pas donc, les Iraniens fléchir. Si on regarde attentivement la presse iranienne, si on la lit, eh bien, on voit quand même un sentiment de victoire qui transparaît dans tous les titres des articles. Donc ceci est quand même inquiétant et on voit un président américain assez démuni et quand on est démuni, on peut aussi avoir recours à des choses encore plus radicale, alors éventuellement reprise de la guerre, même si ça semble peu probable en ce moment, parce qu'il y a la Coupe du Monde de football, il y a bientôt la fête nationale
du 4 juillet, et puis il y a les midterms.
Il y a les midterms, oui. Alors peut-être avant les midterms, faire un coup d'éclat pour essayer de refaire penser la balance électorale, refaire peser la balance électorale en sa faveur.
Merci Jean-Pierre Perrin pour cet éclairage.
Merci à vous.
Je rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes écrivain et grand reporter, spécialiste de l'Iran, du Proche et du Moyen-Orient. C'est ainsi que s'achève cet épisode que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur notre site et Spotify. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.
L'Orient décrypté avec Jean-Pierre Perrin.